Et la paracha que nous lisons, ce Shabbat qui précède le Rosh Chodesh Nissan, en général, chaque année, c'est la paracha de Vayikra, qui est la première du livre de Vayikra, par exemple. Alors, je me propose d'étudier deux thèmes d'étude. Un, dans la paracha de Vayikra, nous verrons la différence de la qualité de la prophétie en Israël, et en particulier à travers Moïse, d'après le verset, et d'autre part chez les nations. Et ensuite, nous résultant, j'espère, nous prendrons un thème de la Parashat HaKodesh, la raison pour laquelle le sacrifice de Pessah devait être préparé déjà le 10 du mois de Nissan, que nous avons aussi dans le texte de la Parashat HaKodesh. Alors, si vous pour commencer, prenez le livre de Vayikra. Comme vous savez, d'une façon générale, le livre de Vayikra concerne toutes les prescriptions concernant la sainteté qui est réservée à des degrés divers à la tribu de Lévi et à la branche aînée de la tribu de Lévi qui sont les Kohanim, et d'autre part la distinction entre la pureté, les voies qui distinguent entre la pureté et l'impureté. Donc nous aurons le temps à travers, en particulier les premières sidrotes, mais pratiquement tout le livre, d'aborder ces thèmes, et en particulier à les premiers thèmes que nous aurons étudiés. Sera le thème du sacrifice, peut-être qu'il nous faudra d'ailleurs plusieurs séances. Je pense qu'il est important une fois de prendre ce problème en lui-même et de l'analyser dans toutes ses dimensions. Mais on ne sera pas aujourd'hui qu'on se occupe à cela. Et vous savez d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle en français on a pris l'habitude de traduire le livre de Vayikra par le mot de Lévitique, c'est-à-dire la Torah qui concerne la tribu de Lévi. En hébreu, enfin, l'expression traditionnelle est bien plus précise, ça s'appelle Torah Kohanim. C'est-à-dire la Torah qui concerne les Kohanim. Et là, il y a une intention bien précise. En principe, c'était la Torah qui était modèle pour tout Israël. C'est-à-dire que ce niveau de l'exigence des niveaux par rapport à la sainteté et à la distinction de la pureté et de l'impureté était en principe le niveau auquel était appelé tout Israël. Je vous rappelle du verset qu'on a étudié probablement, sinon pas cette année, en tout cas certainement une fois, dans le récit du livre de Shemot, du livre de l'Exode, lorsque, avant le Mahamad Ar-Sinaï, avant la révélation du Sinaï, Dieu révèle à Moïse le charge de transmettre à Israël son projet d'identité pour Israël, et c'est le verset que j'étudie de nouveau, « Ve'atem t'inistilui mamechet kohanim de goïkadol » et quant à vous, vous serez pour moi une royauté de kohanim, on traduit en français par prêtre, mais retenons le mot hébreu « kohanim », ce niveau de sainteté qui exige la séparation entre la pureté et l'impureté, et par conséquent tout Israël était appelé à être Mamechet Kohanim. Comme vous le savez, les événements ont fait que le projet initial que tout Israël soit une société de Kohanim est reporté à la fin des temps, et jusque-là, ce projet est différé mais n'est pas annulé. Et jusque-là, une délégation de sainteté est donnée à un plus haut niveau, à la tribu de Lévi et au niveau le plus central, au Kohanim eux-mêmes. Lorsque nous étudions ce thème, c'est un sujet important pour lui-même, alors on rappelle toujours qu'il y a eu deux raisons pour lesquelles ce projet que Israël est tout entier comme un peuple et qui serait tout entier la tribu de Lévi, plus exactement le Kohanim, par rapport au reste de l'humanité qui serait comme les tribus d'Israël. Et ce projet messianique a priori n'était différé jusqu'au temps de la fin des temps d'exil, a la raison de cette, comment dit-on, différemment, ce sont deux raisons en fait. Il y a une raison d'ordre extérieur, le refus de Dieu d'un tel statut de l'histoire de l'humanité, et une raison intérieure, l'incapacité encore pour Israël d'être à la hauteur de ce projet-là, et ce qui s'exprime par l'incident, qui est plus qu'un incident, de la faute du hauteur. Et donc, à partir de la fin du Hodor, commence ce temps où le projet initial va être différé, repris d'ailleurs dans la prophétie de l'ensemble des prophètes, jusqu'à la fin des temps, c'est un thème pour lui-même. Et voilà que le premier verset qui introduit dans le livre de Vayikra les différentes ordonnances concernant le culte des sacrifices, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le prochain étude, nous étudierons le problème des sacrifices pour lui-même, et concerne en réalité la qualité particulière de la prophétie propre à Moïse. Nous allons d'abord lire ce verset Vu le commentaire de Rashi qui résume là un certain nombre de perspectives données par le Midrash, je vous citerai un Midrash particulier, et ensuite nous étudierons ce thème de la différence entre la prophétie de Moïse et celle des autres prophètes des autres nations, et à travers un chapitre du livre du Maharal qui s'appelle Tiferet Israël, qui est le chapitre 21. Je donnerai la référence pour vous tout à l'heure. Voilà donc pour la première partie de l'étude. Alors j'ai dit le premier verset, Vaïkra El Moshe, et il appela Moïse, et vous voyez qu'il n'y a pas de sujet. Vaïkra El Moshe, et tu m'as décidé au paradis. C'est-à-dire, et Dieu appela Moïse, mais le mot de Dieu n'a pas autant dans le verset, Vaïkra El Moshe, et il appela Moïse, Vaïkra Hachem Elav, et Hachem, là le sujet apparaît, par là, Ali, Moïse, Noël Moël, et dedans, littéralement, Noël Moël, c'est dans l'organisation du camp d'Israël dans le désert, l'endroit où se trouve le Saint des Saints du Tabernacle, et qu'on traduit littéralement en français, Noël, la tente, Moël, de rendez-vous. Les traducteurs ont l'habitude d'envoyer un mot assez particulier, la tente d'assignation. Bon, je crois que cette expression est restée dans l'histoire de la langue, même si c'est partie de la langue contemporaine. Et il voudrait mieux dire dans le tabernacle. Vaïkra El Moshe, El Aber Hachem Elav, Neo El Moed, Ben. Il y a là toute une précision des conditions de la prophétie qui introduit les lois de ce que nous avons appelé Torah Kohani, c'est-à-dire le code de la sainteté. Il faut bien retenir le lien qu'il y a entre ces deux notions. Le fait que la prophétie qui concerne Israël, et en particulier lorsqu'elle passe à travers Moïse, qui est le prophète de la Torah, et d'autre part, l'objectif, l'objet de cette révélation prophétique, qui est le code de la sainteté, ces deux problèmes sont étroitement liés. Je vous dis pourquoi il y a une différence de nature de la révélation prophétique lorsqu'elle passe par Moïse, et non pas par les prophètes des nations, c'est parce que l'objet de cette prophétie est l'éminence de son esprit. Et nous allons le voir d'ailleurs confirmé par le commentaire que tu crachis, qui en réalité combine un certain nombre d'enseignements de Midrashim différents, et connaître tout de suite avec moi donc le texte de Rashi sur ce premier verset. Dis-moi, avant de lire Rashi, vous remarquez comment le mot de Vaïkra est écrit, et je pense que vous l'avez signalé dans vos livres aussi, et le mot de Vaïkra a une particularité, c'est que le Aleph de la fin du mot de Vaïkra est écrit en tout petit caractère, qui s'appelle Aleph Verira, un Aleph petit. Et c'est précisément l'étude du mot lui-même et de la manière dont la Masorette nous avait fait, la façon dont il est écrit dans le Sefer Torah lui-même, qui pose notre problème. En effet, le terme qu'emploie la Torah pour dire la prophétie à Bilam, qui est le prophète des nations, et je reviendrai donc sur cette différence, c'est le mot de Vaïkar, c'est-à-dire un mot qui vient du Sefer aussi. Il y a des alors, le faire, c'est qu'on peut dire l'événement de révélation prophétique pour Bilam en particulier, qui est le symbole même. C'est aussi un événement qui fait illusion sans qu'on s'y attend. Par exemple, vous avez le mot de Kéry. On traduit finalement, en fin de compte, dans le dictionnaire par un hasard, par le sous-absent. Le mot de Mikré, qui se rattache aussi à la même racine. Donc ce sont deux racines très voisines. La différence essentielle, c'est que Vaïkra implique une relation individualisée, personnalisée. Quelqu'un s'adresse à quelqu'un et l'appelle. Alors que Vaïkar implique une rencontre, mais qui dit par cette fortuite, comme nous allons le voir dans le commentaire de Rashi, mais une rencontre qui n'est pas du tout individualisée, qui n'est pas du tout personnalisée. Dans un des Midrashim qui parle de la différence de la nature de la prophétie concernant Moïse et d'une part concernant Bilam de l'autre, nous aurons d'ailleurs l'occasion de revoir dans le Maharal immédiatement, le Midrash sert de l'image suivante. Un roi avait décidé de donner de l'or, des pièces d'or, à son peuple. Alors, il lance ces pièces d'or. Et puis, il ne se préoccupe pas de savoir où elles tombent. une d'entre elles peut tomber dans un endroit de sainteté, une d'entre elles peut tomber dans un endroit d'impureté. Le mot d'ailleurs qui est employé par le Midrash, c'est aspa, ça peut tomber dans la poubelle. Mais à partir du moment où il y a ce mouvement de générosité de la part du Créateur qui consiste à dévoiler sa volonté à sa créature, il y a un fait en soi qui est la limite de devenir impersonnel lorsqu'il n'y a pas cette relation particularisée, personnalisée, que Jésus avait dit à peine d'autre part, le principe d'individuation. Que Dieu se révèle intentionnellement à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un, tandis que, en fin de compte, dans l'autre perspective de la prophétie, et nous allons le rappeler et expliquer pourquoi, qui a eu lieu pour toutes les nations, mais dans une forme beaucoup plus impersonnelle, une forme qui, à la limite, s'apparente à ce que cette deuxième racine signifie, le mikré, ça ne veut pas dire par hasard, parce que c'est quand même beaucoup plus précis que ça, c'est une espèce d'idée d'événement abrupt, qui arrive à brut pour point, qui n'est pas préparé, et qui par conséquent est de l'ordre de l'arbitre. Et nous verrons donc assez en détail la signification de cette première différence. Alors, je crois qu'on peut retenir de cette première analyse, et c'est ce que Judas avait dit, qui contribue à nous laisser comprendre, ce principe de relation de quelqu'un à quelqu'un. Je n'ose pas dire, parce que nous parlons français, une relation de personne à personne, parce que ça impliquerait trop d'implications et un peu étrangères, mais d'une volonté à une volonté. Je pense que c'est bien clair. Alors, lisons donc le texte de la fille. Le chol d'Iberot, ou le chol amirot, à chaque révélation, que soit introduit par le mot par le terme de dibour, d'Iberot. Et je reprendrai d'ailleurs là très rapidement, nous avons lu dans un cours précédent, ou qu'elle soit introduite par le mot de donc Vayaber, ou le mot de Vayomer, les amirot, la révélation peut se faire à travers deux médiations. La médiation de la médiatadule, la médiation de l'exigence de rigueur et de justice absolue, alors la parole est introduite par le terme de dibour qui en hébreu est une parole dure. Alors que la parole dans le deuxième terme de Vayomer, Amira, les mots, est une parole douce. Et là, c'est la révélation à travers la midata chesed ou la midata racham, c'est-à-dire la tribu de Shabbat. Je vais signaler ce problème dans un des cours précédents. Certains niveaux sont introduits par l'expression Vayaber Hashem et Moshe, ou Vayaber et Elohim et Moshe. D'autres expressions sont introduites par Vayomer Hashem et Moshe, ou Vayomer Elohim et Moshe. Ça signifie donc, a priori, il y a une intention, finalité, et donc signification différente de à ce niveau, suivant que la mitzvah est introduite par le dibour ou la amira. Retenez la règle, dibour de la chaîne cachée, amira de la chaîne raca. C'est bien clair, je suppose. Mais alors, donc, dans les deux cas, que la révélation concerne la volonté du Créateur à travers la Midata Din, qu'elle concerne la volonté du Créateur à travers la Midata Chesed, dans tous les cas, nous dit Rashi en citant son ouvrage, Kadma Kriya, relativé, donc, et pour tous les niveaux, Kadma Kriya, un appel à précéder. Cette idée, ce principe que l'appel a précédé la parole, nous montre bien qu'il y a relation de révélation personnalisée. C'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un et qui l'appelle par son nom. Et vous rappelez, vous retrouvez ça d'ailleurs dans beaucoup de sources de Midrashim, que le premier événement de révélation au grand prophète, c'est le cas pour Abraham, c'est le cas pour Moïse, c'est le cas aussi pour Jacob d'ailleurs, c'est le fait que l'homme qui est l'objet de cette révélation est appelé par son nom. Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe. Vous rappelez donc de alors là, je crois que nous avons un principe très important et qui nous est dit très directement par ce commentaire de Rashi. À chaque révélation de la parole précède l'appel nommé et donc personnalisé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un, et il ne s'agit pas ici d'une relation de dialogue anonyme et d'une relation de dialogue, je ne sais pas comment dire, impersonnelle, de l'homme avec la sagesse qui se révèle, nous reviendrons sur cette deuxième définition tout à l'heure, en parlant de la manière dont le Midrash définit la révélation au prophète de Benach. Et c'est ainsi que Rashi continue à s'exprimer en citant le Midrash. La chaune Hibba, c'est un langage, Hibba c'est plus que l'amitié, c'est l'affection, c'est un des mots qui signifie l'amour. Et on voit bien qu'il y a une relation, encore une fois, de quelqu'un à quelqu'un. L'action de chez Manasseh Asheret Mishkan Shilbo, c'est le langage dont, littéralement, les anges du service, c'est-à-dire les véhicules, les volontés particulières du Créateur unique, se servent chez Neymar, d'après les versets qui disent, Ekara Zé Elvé, ainsi qu'un papité, Ekara Zé Elvé Véhama. C'est-à-dire, et l'un appelle l'autre et dit ce qu'il a à dire. Chacun appelle l'autre d'abord avant de parler. Encore une fois, pour que la révélation soit authentifiée, il est nécessaire d'instituer cette relation de volonté à volonté, de personne à personne, nous verrons aussi comment la nouvelle s'exprime, mais le principe général doit être bien compris. Alors, il y a possibilité de relation de la prophétie au projet de fondée. C'est au fond ce lien que vous signalez tout à l'heure qui doit nous servir un peu de fil conducteur pour l'organisation de la compréhension de ces thèmes de machine. Si je reprends par exemple le verset concernant les anges, et encore une fois, ce n'est pas le sujet maintenant, mais je vous rappelle brièvement, la manière dont telle ou telle volonté particulière du divin, par rapport à telle ou telle catégorie de phénomènes, telle ou telle manière d'être la créature, se révèle dans sa particularisation, alors apparaît ce que l'on appelle un malar. Et donc le verset qui parle de la manière dont les anges conversent entre eux, si je veux dire, en s'appelant d'abord, je continue à l'expliquer, les carazés, élevé, véama, salon. C'est-à-dire le premier mot qui est dit, c'est le mot qui exprime, bien entendu, la réalité de la sainteté. Encore une fois, s'il y a relation personnalisée, et par conséquent, relation qui implique une relation d'affection, comme si c'était le de Rashi, alors on peut être lié au projet de sainteté. Sinon, ce dévoilement de sagesse peut se faire dans l'arbitraire, peut se faire dans l'impureté, rappelez-vous les détails de l'immigration de tout à l'heure, peut se faire de manière impersonnelle, et donc je crois que le terme le plus important pour désigner le point précis de cette différence, c'est l'arbitraire, et donc il n'y a pas possibilité de relier la sagesse au projet de sainteté. C'est quelque chose de très analogue, et que ce ne soit pas exactement le même domaine, c'est quelque chose de très analogue dans la manière dont les Hachamim, dont les sages, ont défini la différence entre la Torah et la philosophie, en tant que dévoilement de sagesse. C'est-à-dire que la recherche philosophique n'aboutit pas forcément à un engagement pratique de la sainteté, alors que la sagesse de la Torah, par définition et a priori, n'est authentique que si elle concerne un engagement pratique de relation à la sainteté. Je ne sais pas si vous avez été suffisamment clair. Voilà. Un exemple peut avoir de très grandes philosophies, mais qui n'engage pas le philosophe lui-même, mais ni non plus le lecteur, à se relier au projet de sainteté. C'est une recherche de dévoilement de vérité, et il peut y avoir d'ailleurs, enfin, plus ou moins large coïncidence, recouvrement avec la vérité telle qu'elle est, mais ça n'implique pas le halakha le maaseh, comment ça dire ça, l'engagement pratique. Tandis que la sagesse de la Torah est ainsi qu'elle est dénommée l'Ishma en son nom elle-même, dans son intention elle-même, a priori implique cet engagement pratique au projet de sainteté. Bien, de même pour la prophétie chez Israël, Moïse en particulier d'un côté, chez les nations du Lame en particulier de l'autre côté, l'accès au pressentiment, à la compréhension, en quoi que ce soit de la révélation du projet du Créateur pour l'histoire de son monde, dans la prophétie de Jésus n'implique pas une relation au projet de sainteté, dans son engagement pratique, ne même pas au milieu, si je dis, alors que dans la prophétie d'Israël, elle mène immédiatement à la Avoda de Torah Tuanim, premièrement, les Corbanes. C'est clair donc comme dit-on. Aval, l'Indi, au Motarola, nous suivons Rashi, mais. Pour les prophètes des nations, Nigla Aleem, il se révèle à eux, Bichon Arai, dans un langage, alors Arai, vous allez me dire, qui arrive comme ça arrive. Encore une fois, je vais éviter le mot de hasard, hein, mais quelque chose de, qui n'est pas particularisé dans cette relation. C'est quelqu'un à quelqu'un dont j'ai parlé tout à l'heure, les climats et infecté, c'est Neymar, d'après les versets qui disent, Vaïkav, Elohim, Elbiha. Et Dieu se révèle par irruption subite à Bilak. Voilà donc notre verset. C'est d'abord, c'est un premier miroir concernant ce problème et qui indique pourquoi la Torah a venu à nous inviter à comprendre le cas particulier de la prophétie à Moïse en relation avec le puits des sacrifices dans le tabernacle. En fait, le puits des sacrifices avait lieu dans le temple, mais nous sommes dans la génération du désert et c'est en préfiguration le Mishkan. C'est une grâce du sacrifice. Amar Rabbi Yitzhak, Akshelo Hukam Amishkan, jusqu'à ce que le tabernacle n'ait été dressé, Haïtan et Roua Mitsuya, Beinu Parlam, ont trouvé la prophétie chez les nations. Michel Hukam Amishkan, depuis que le tabernacle a été construit, Mistalkan et Benéel, la prophétie a disparu d'entrée. Ce Néhéma, ainsi qu'il est dit, à Hakim et leur Pénou, bon, c'est un verset de Kéhakim, on a brûlé, on a objecté à Rabbi Yitzhak. Arrêt Bilam dit Navé, et voilà que pourtant Bilam prophétise, et comme vous savez déjà, je vous cite déjà, mais c'est bien connu, Bilam est connu comme le prophète des nations. Je crois qu'il faudra comprendre cette définition pour elle-même, ce n'est pas n'importe quel prophète de n'importe quelle nation. En principe, d'après ce livre lui-même, chaque nation avait sa propre capacité prophétique, et était sûr de recevoir l'éclairage nécessaire pour l'histoire de sa propre société, mais le cas de Bilam est un cas particulier, il est, si l'on pourrait dire, le porte-parole de l'ensemble des nations, de l'humanité entière, lorsqu'il y a en particulier contestation vis-à-vis d'Israël. J'avais expliqué une année précédente que, par grande analogie, par analogie très assez lointaine, mais quand même suffisamment significative, on doit relier les différents éléments. La capacité prophétique des fils d'Ilam, le prophète des nations en général, apparaît au moment de la fin de l'exil, au moment où se constitue la coalition d'intérêts contre le projet d'Israël de sortir de l'exil et de se constituer en nation prophétique, en nation de la révélation. Et de notre temps, on pourrait dire que c'est à peu près représenté par le projet de propagande contre le peuple juif, et surtout lorsqu'il est formulé par le porte-parole de l'ONU. Et en effet, si vous étudiez la prophétie de Bilam concernant Israël, Bilam a pour projet de maudire Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire maudire? Ça veut dire le mal de, c'est-à-dire calomnier, finalement. Et je crois que toute cette énorme science, très contemporaine d'ailleurs, de la propagande, sans racine, la propagande est capable, avec la parole, de faire que quelqu'un de bien est connu comme mal, ou l'inverse, que quelqu'un de mal est connu comme bien. Donc, maudit, c'est très littéralement dire le mal d'eux, et je crois qu'on ne peut pas ne pas diagnostiquer cela. C'est que Israël, à certaines époques de l'histoire, n'est pas seulement en but au prophète de telle ou telle, à la capacité prophétique, disons, de telle ou telle nation rivale dans sa contestation particulière, sa vie pour elle-même, mais à certaines époques, il a affaire à Bilam, c'est-à-dire une sorte de capacité prophétique universelle qui récapitule la coalition des intérêts généraux de l'humanité face à Israël lorsqu'elle se cristallise ainsi, et dès le moment de la fin de l'Église, selon ce que nous avons fait. Alors on a objecté donc à Rabbi Yitzhak, et pourtant, Rabbi Yitzhak vient d'enseigner que tant que le Mishkan n'était pas construit, la prophétie se trouvait chez les nations. Et pourtant Bilam a prophétisé à Marlaïm, il leur a répondu, les Torvatan, c'est l'Israël, nous finalement. Il ne prophétise qu'en relation avec Israël. Littéralement, c'est pour le bien d'Israël. Nous savons par quel processus il veut dire le mal d'eux, il est obligé de dire le bien d'eux. En disant le mal d'eux, il dit le bien. En maudissant, il bénit en réalité. C'est-à-dire que sa prophétie ne concerne que Israël. L'explication de cette grâce me semble extrêmement immédiatement reliée à ce que nous avons vu précédemment. C'est-à-dire, quand il n'y avait pas encore une particularisation de l'interlocuteur de la révélation prophétique, alors elle est généralisée. Et reprenons l'image de tout à l'heure. Le roi a décidé de distribuer son trésor. Il ouvre le trésor et en jette les pièces d'or ou les bijoux. Et puis, ça tombe ou ça tombe. Il n'y a pas encore d'adresse particulière où la révélation doit s'adresser. À partir du moment où le Mishkan est construit, à partir du moment où la maison d'Israël a son adresse, à partir du moment où ce lieu de rendez-vous, Ohel Moed, a une adresse particulière, alors il n'y a plus de raison que la révélation se gaspille à l'extérieur. Elle sait où être divinisée, et c'est à travers Moïse, le verset Vaïtra El Moshe, mais Ohel Moed, c'est. C'est clair tout cela. Ça veut dire que cette relation de particularisation du dialogue de la prophétie, eh bien, attendait la vraie, si j'ai dit, la sauvette, attendait que se constitue cette maison de rendez-vous où l'homme et Dieu peuvent se rencontrer. Vous rappelez que nous avons étudié ce thème dans la provocation de fond, une petite même un peu plus, et que le temple, précisé dans le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu et l'homme peuvent être en présence parce que les conditions de la sainteté ont été accomplies, alors la présence réciproque de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu n'est plus dangereuse pour l'homme, puisqu'il est à l'abri des conditions de la sainteté. Et donc à partir du moment où le Créateur, qui avait lancé son projet de révélation dès l'origine à l'échelle de l'universel, a à sa disposition l'adresse où il peut se rendre à ce rendez-vous de la révélation, alors que là que ça se passe, il n'y a plus nécessaire que ça se déverse ailleurs. C'est une de nos devoirs, donc, dans le moment de Ténébras, c'est que le projet de la révélation, c'était bien entendu d'attendre, c'est son projet réel, d'attendre cette révélation de quelqu'un à quelqu'un. En attendant, le quelqu'un du côté de l'homme n'étant pas encore constitué, ni sa maison, alors en attendant, la révélation est généralisée, la sonde travail, elle peut tomber dans l'impureté. Ça veut dire très précisément qu'un prophète des nations, même s'il est impur, peut être prophète, parce qu'il n'y a pas cette relation de particularisation dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais à partir du moment où le Mishkan est constitué, alors l'état antérieur cesse, le projet de la révélation a trouvé son accomplissement et il est particularisé. Vaïkra El Moshe. Est-ce que c'est clair? Non, là, dans ce récit auquel tu fais allusion, nous avons d'ailleurs dans le livre de Benimba, il essaye de comprendre la manière dont les patriarches ont, eux, mérité leur pile de révélation, une espèce de stratégie de rivalité. Vous voyez comment Rassi d'ailleurs aussi, il a voulu faire comme les patriarches, et alors, de même que les patriarches offraient un sacrifice avant la révélation, ou parfois après, alors il a préparé autant de sacrifices que les patriarches pour équivaloir au patriarche. Mais ici, c'est un peu différent. Je veux dire que, à partir du moment où l'adresse de la Kedusha dans le monde est déjà connue, alors cette espèce de prodigalité de la révélation à l'échelle impersonnelle, en attendant qu'elle trouve son objet, devient inutile. C'est un stade qui est dépassé. Et donc, après la construction du Mishkan, la prophétie va s'arrêter chez les autres. On objecte le cas particulier de Bilam, et on nous répond que Bilam, finalement, n'est touché par cela quand il concerne Israël. Donc, ce thème-là est très familier à l'enseignement de la tradition. Nous pourrions peut-être le formuler au niveau de notre expérience de culture contemporaine de la manière suivante. Finalement, il y a un consensus général de la conscience humaine à l'échelle universelle que si un jour il y a eu révélation, il s'agit de la révélation à Israël. Et même ceux qui contestent la légitimité d'Israël de la révélation ne parlent que de la révélation concernant Israël. Je pense que c'est évidemment que si nous étions dans l'histoire il y a 2000 ans, 3000 ans, nous ne pourrions pas dire cela. Ce consensus n'était pas encore apparu de façon aussi évidente. Et là, je me base de nouveau sur le Kizari. Après la diffusion de la révélation prophétique à travers la dimension chrétienne et la dimension musulmane, et à travers ce que ces civilisations ont véhiculé dans l'universel lunaire, finalement, à moins de réextraire nul sur la planète, le pays n'aurait cela que du consensus général des nations. S'il y a eu ce lien, s'il y a eu révélation, il s'agit de la révélation à Israël. Alors, c'est une manière contemporaine d'expérimenter ce que le Midrash enseigne ici. C'est que dès que le Mishkan a été constitué, la révélation en général cesse et enfin elle se particularise dans son intention première, c'est-à-dire que quelqu'un se révèle à quelqu'un, le Créateur, à sa créature, pas en général, mais de façon particulière. Comment ça se traduit dans le texte? Très simplement du point de vue du chat, celui qui est appelé à la prophétie est appelé de son nom, littéralement. Je pense que c'est suffisamment. Alors, nous pourrions d'ailleurs, et là, juste là, c'est très abondamment, mais je voudrais arriver quand même à l'enseignement du Maharaj, qui nous donne trois points précis de la différence entre la prophétie de Moïse et la prophétie de Bilam. Mais le deuxième Midrash d'abord. Ma ben Nevié Israël, ben Nevié au Mataolam, qu'y a-t-il de différence entre les prophètes d'Israël et les prophètes des nations? Rabbi Chama et Rabbi Hanina a enseigné, Rabbi Chama et Rabbi Hanina a enseigné ceci, et la Kadosh Baruch Hu, et la Kadosh Baruch Hu Niglé à l'Omota Olam, et la Bachatibidou. C'est-à-dire, Dieu ne se révèle aux Omota Olam, aux nations du monde, que par la moitié d'un mot. C'est-à-dire, chaque parole est en réalité une demi-parole. Une expression assez difficile à comprendre apparemment, mais dans le sens, c'est finalement très simple, comme nous allons voir avec immédiatement d'ailleurs encore avec le Maharal, mais je continue d'avoir le message, je reviens là-dessus immédiatement. Avant, l'Église d'Israël, des Dibur Shalem, pour les prophètes d'Israël, par une parole entière. Et là, le Midrash nous cite que la différence qu'il y a entre le mot de Vaïkra et le mot de Vaïkra. Le deuxième enseignement du même Midrash, c'est Rabbi Issachar, car il est charam, en la chôme vaïka, et la chôme tuma, kema de tema, asher le yé taor michelaïla, abalmiri israël, du chôme kedusha, du chôme tahara, du chôme barouk, du chôme kemalaché acharet, metal simbo, la chôme de l'eau, et c'est un peu ce que la chère expliquait, je traduis, c'est-à-dire la deuxième différence, c'est que la prophétie chez la nation peut se faire dans l'état d'impureté, alors que pour Israël, elle est donnée en un langage de sainteté, en un langage de pureté. Encore une fois, ça se relie à ce principe de l'individuation, de la particularisation de la parole à la parole. Et voilà donc, en tout cas, comment le Midrash, le cycle Maharal, va nous montrer cette différence sur des points précis. La première est très importante. Alors, le Midrash dit ceci, c'est dans le Sifré, à la fin de la paracha de Vezot Avracha, et je suis donc le chapitre 21 de Tiferet Israël du Maharal. Shlosha devarim ayu de Moshe, ma shelo ayu de Bilham. Moïse avait le privilège de trois vertus quant à la prophétie qui ne se trouvait pas chez Bilham. Moshe ayam edaber imo pelte. En ce qui concerne Moïse, Dieu lui parlait littéralement de bouche à bouche, est-ce qu'il est écrit, pe adaverbo, je lui parle de bouche à bouche. Très brièvement pour ce premier point, nous avons déjà l'indication que c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Et je voudrais simplement rappeler deux points d'explication à ce sujet. Il y a une différence entre la pensée qui ne s'exprime pas par la bouche et la parole qui s'exprime par la bouche. Et par conséquent, la bouche indique que c'est le quelqu'un qui pense qui s'exprime, alors que la pensée peut rester encore à l'échelle de l'impersonnel. Je peux prendre connaissance d'une connaissance sans que cela ne signifie que quelqu'un m'ait dit que cela est vrai. Ça, c'est au niveau de la pensée. Alors, dire que la révélation se fait par la bouche, ça indique que c'est une volonté personnelle, un quelqu'un qui a parlé. Je vais donner un certain nombre d'exemples. Premièrement, l'analyse que vous connaissez déjà, c'est lorsque la tradition a voulu définir, donner plus exactement la définition de l'homme parmi toutes les autres créatures et parmi tous les êtres vivants, elle a choisi entre deux formules possibles. Et c'est une discussion qui a été souvent reprise au Moyen Âge, aussi en philosophie générale, chez les grands philosophes. Soit la formule le vivant pensant, le Chayam Askul, soit la formule le vivant parlant, le Chayam Daber. Et finalement, elle a choisi la formule Chayam Daber, c'est-à-dire celui qui se révèle par sa bouche, et non pas le vivant pensant. La raison, c'est que, et encore une fois, la parole révèle qu'il y a quelqu'un derrière l'événement de parole, alors que la pensée ne signifie pas forcément qu'il y a quelqu'un derrière l'événement de pensée. Donc aujourd'hui, ainsi que j'ai l'habitude de l'expliquer, aujourd'hui nous sommes très à même de l'expérimenter, puisque nous savons qu'il peut exister des machines impersonnelles qui pensent. Et il n'y a pas quelqu'un dans cette machine, même si on pourrait l'interpréter au niveau de l'analyse de science-fiction, qu'un ordinateur finalement tomberait amoureux de son créateur, ou de l'histoire de ce genre, mais ça c'est durement futuriste. En fait, ça pense et il n'y a pas quelqu'un qui pense. Le fait que la pensée chez l'homme soit d'une envergure que nous lui connaissons vient de ce que c'est la pensée de quelqu'un qui parle. Et la différence donc entre les autres êtres vivants, y compris la pensée, je veux dire qui connaissent aussi le comportement de la pensée, bien qu'à l'échelle rudimentaire, c'est le fait que l'homme se définit comme Chayam Daber, c'est-à-dire le vivant parlant. Alors c'est à rattacher à ce que ce Midrash dit, quand Dieu parle à Moïse, c'est de bouche à bouche. Ensuite, j'ai expliqué pourquoi, ou rappeler en tout cas, pourquoi c'est de bouche à bouche et pas de bouche à oreille, selon l'expression habituelle en français. Mais j'y arriverai immédiatement. C'est-à-dire, juste Dieu se révèle à Moïse, non pas de pensée à pensée, à travers un dévoilement de logos, un dévoilement logique, c'est de nouveau dire le même principe que ce Midrash nous enseigne, c'est-à-dire c'est la particularisation de quelqu'un à quelqu'un. Et seule cette relation de personne à personne, si j'ose dire, mettez-en entre peut permettre d'aborder le projet de sainteté. Alors que la découverte de la vérité en général, à l'échelle impersonnelle, peut mener soit au projet de sainteté, soit à la réalité de la pureté. Elle n'implique pas forcément, a priori, nécessairement, l'engagement de Halakha Lemaase qui l'implique. Je pense que nous retrouvons la pause pour notre niveau de futur, effectivement, de nouveau, la différence entre l'événement prophétique et le projet philosophique, et ça va nous être encore déployé dans les autres. Maintenant, très rapidement, pour l'expression elle-même, CLP, si c'est bien clair jusque-là, le mot important, c'est P. Que Dieu se révèle en parlant. En parlant, ça veut dire que quelqu'un va parler à quelqu'un. Tandis que la sagesse en général, la vérité en général, si elle se révèle, elle se révèle dans l'impersonnel, et c'est personne qui parle, et ça concerne personne en particulier. Au fond, la grande mission. Alors, deuxième point du premier point, PLP et non pas PLOZEN. Par exemple, nous sommes familiers à l'expression française de bouche à oreille, et pas du tout à l'expression hébraïque de bouche à bouche. Pour dire la révélation, alors qu'elle est personnalisée dans toutes les dimensions que j'ai déjà rappelées. Et bien, c'est parce que l'objectif est que la bouche répète ce que la bouche a dit, et non pas simplement ce que l'oreille a entendu. Parce que l'oreille n'a pas forcément entendu ce que la bouche a dit. Et la condition pour laquelle la transmission de la révélation sera authentique, c'est que la bouche répète ce que la bouche a dit, et non pas encore une fois ce que sa propre oreille a entendu. Donc c'est bien sûr. D'où l'expression qui est devenue traditionnelle en hébreu, PLP. C'est-à-dire que Moïse va redire par sa bouche ce que la bouche de Dieu a dit, et non pas ce que l'oreille de Moïse aurait entendu. Je pense que c'est bien sûr. Vous savez comment c'est impliqué dans Halakha Lemaase, c'est qu'on va toujours répéter un enseignement exactement dans les termes où on l'a entendu, sinon c'est pas le même. Et en disant toujours qui l'a dit cet enseignement, parce que sinon c'est pas le même. Je vais essayer une toute petite parenthèse de Rebecca. La même parole de sagesse, suivant qui l'a formulée, va prendre un sens radicalement différent. Si c'est Rabbi Akiva qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien ça a un sens relié à la Torah très important. Si c'est, je ne sais pas, moi, le fondateur de l'ordre de Jésus qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça va devenir tout à fait autre chose quand ça l'a même dit. Je vous ferai un peu c'est le temps de dire. Ça dépend qui dit quoi. C'est ce que c'est. Je me rappelle une fois j'avais écrit ça comme ça dans les deux plus jeunes étudiants. C'était la mode des cartes postales humoristiques qui venaient d'Angleterre. C'est les Anglais ont des numéros très particuliers. Et alors, je me souviens d'une carte postale comme ça. D'ailleurs, je crois que les Israéliens sont très souvent de cette mise en anglais. Moi, je ne comprends rien à la télévision. Et tout ça. Donc, bon, on a dit que c'était ça de l'époque du mandat britannique. Et alors, et l'humour écossais, oui, on peut comprendre. Mais enfin, non, c'est notre problème. Et alors, là, j'ai eu des petites cartes postales. C'était un bébé, assis d'un air très serein, très sage, dans la position du yoga, et disant, ça c'est la légende, d'ailleurs c'est la légende, je vais maintenant utiliser, à mes enfants le monde. Vous voyez ? Alors, si c'est un bébé qui dit ça, c'est grotesque. Si c'est un vieillard qui dit ça, ça commence à faire réfléchir. J'ai compris la différence. Ça dépend qui dit quoi. Donc, c'est bien clair. Alors, c'est pourquoi les deux consignes de la tradition sont formelles. Lorsqu'on cite un enseignement, il faut le citer exactement comme il a été dit, ce que la bouche a dit, parce que l'oreille a entendu, parce que l'oreille entend ce qu'elle entend. Bien, donc, c'est clair. Et d'autre part, de dire qui a dit quoi. Et voilà donc pour Pelle.
On enchaîne,
tu vas sur la parole
et
donc sur cette table-là, le tabel de ma soeur, alors le soeur c'est ce. Et la fin de la semaine dernière, il me dit, avant de faire avec nous, il me dit un jour. C'est préparable de faire tourner mal. Voilà la première donc différence. pense que c'est ce qui nous a peur, au fond, ici, ce Midrash nous analyse les conditions de ce que nous avons appelé le principe d'individuation qui fait que le projet de sainteté est fait. Cette grande différence, c'est la différence entre Dieu, et ça renvoie à une volonté qui pose la création du monde et qui révèle, et d'autre part, la divinité en général, et ça, c'est l'homme qui projette sur cet écran de la divinité en général sa propre conscience personnelle, comme nous allons voir alors. C'est donc ça. Deuxième différence. Moshe Ayam et Abérimo, Panim et Panim. Panim et Panim, il y a deux explications possibles. Soit que ça veut dire la face de Dieu et la face de Moïse, mais nous ne pouvons pas obtenir cette lecture, parce qu'un verset très clair nous dit « Kilo, Irani, Adam, Bahai, le Maharal, le Fils, c'est très en détail, je me donne à le citer. » Vous vous rappelez d'ailleurs à l'exposé de Benoît sur Maïmonide, ce qu'il avait expliqué à propos de l'impossibilité de la révélation face à face, tant que nous sommes encore dans la condition de créature dans ce monde. Kilo, Irani, Adam, Bahai. C'est quand même une petite parenthèse pour vous indiquer que les choses ne sont jamais aussi simples qu'on pourrait les supposer. Il y a, je me souviens plus si nous l'avons étudié cette année, il y a une paracha dans Shemot qui commence par l'expression suivante, Vaera, El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, les mots, le Shekha, Ve'el Shaddai, Ushmi, Hashem, l'Onodarki, Laem. Mais c'est traduit juste le début du verset. Et je me suis révélé, Vaera, et le mot qui est employé, ça signifie, et je me suis fait voir, Vaera. Se révéler, se dévoiler, lorsque c'est exprimé par le terme qui signifie se faire voir, ça signifie donc que celui à qui Dieu s'est révélé a pu le voir. Et qu'est-ce qu'il a vu? J'ai compris la difficulté de la question. Ça se oppose complètement à ce verset que j'ai donc cité, qui est l'Irami Adam Vahal. Et c'est pourquoi il y a une pointe de sagesse très fine chez les commentateurs de Rashi qui vont nous faire comprendre une attention de Rashi qui serait pas perceptible si on n'avait pas ce problème en tête. Je vais vous expliquer très rapidement comment Rashi commande cette expression du verset de la paracha de Vaera. Le verset dit Vaera, El Abraham, El Yitzhak, Ve Yaakov, Ve El Shaddai. Rashi, et vous allez ouvrir le texte qu'il avait dit de ce mot et le voir dans le texte. De Shemot. Voilà, chapitre 6, verset 3. Et je ne sais pas qui a la page, il a donné pour les mots. Pardon ? 24, page 24, dans Shemot. Alors il y a des choses qui se passent dans la suite. Vaera, au verset 3. Rashi explique Vaera par le mot de El Haavod. Et ensuite, Ve'el Shaddai par le mot de Yitzhakim, Aftachot. C'est traduit. Le verset nous dit, et je me suis montré à Abraham, Isaac et Jacob en tant que Dieu plus puissant. Et ça veut dire, en tant que Dieu capable de promettre, puisqu'il est plus puissant. Et ce qu'explique Rashi, Vaera, je me suis révélé au patriarche. Ve'el Shaddai, je vais la rester de promesse.